je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé.
De la paix. Il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Mel Emmanuel.
7 heures à Thiémé-l'Écrou dans la région du Morono et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Coupe d'Afrique des Nations J-3. Pour la circonstance, Christelle Yesso était aux abords de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle vous fera vivre dans ce journal l'ambiance qui y prévaut. Les populations de la localité de Boukébo dans le centre du pays instruites par le ministre des Eaux et Forêts sur les jours chauds à venir et les conséquences sur la pluviométrie. C'était lors du lancement de la campagne de lutte contre les feux de brousse le 6 janvier dernier. Hors de nos frontières, au Nigeria, au moins 7 personnes tuées hier mardi par des mines terrestres dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Cameroun. Revenant en Côte d'Ivoire, Francis Cassie assurera le parcours des titres de la presse ivoirienne de ce jour. Et en fin d'édition, vous aurez l'invité de la rédaction, chef du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières, Sadibou Emraoun, intervient sur le récent classement mondial de la liberté de la presse, classement dans lequel la Côte d'Ivoire passe de la 37e à la 54e place. Merci de nous rejoindre sur Radio de la Paix. La première partie de ce journal est entièrement consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. À quelques jours du coup d'envoi, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan se met aux couleurs de l'événement en offrant un accueil festif aux voyageurs à travers les atouts culturels du pays. Une ambiance que nous fait vivre Christelle Yesso.
À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous sommes interpellés par des sons de tam-tam. À l'entrée du hall d'arrivée de l'aéroport sont installés des danseurs traditionnels offrant un spectacle de danse hors du commun à tous les voyageurs atterrissant en terre ivoirienne. Des masques tels que le zaouli sont de sortie pour démontrer de la diversité culturelle du pays aux visiteurs. Des décorations en forme de ballons de football, des guirlandes et lumières ornent l'aéroport, annonçant déjà les couleurs d'une CAN qui se veut festive. Des jeunes filles venues visiter l'aéroport sont tombées sur ce spectacle des grands jours et n'ont pas caché leur fierté de voir leur pays accueillir la Coupe d'Afrique des Nations.
Voici moi, je n'ai pas. Quand il y a l'ambiance et autres, je suis fière de mon pays. En tout cas, je suis fière de mon pays.
Fraîchement arrivé du Cameroun, Mathieu se dit ébloui par le nouveau visage que présente l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.
Mathieu Fangwa, je suis plutôt surpris. J'étais en Côte d'Ivoire pour le tirage au sort. J'arrive là pour la CAN, l'ambiance n'est pas de même. C'est une ambiance extraordinaire et je crois que tout est paré pour que la fête soit belle.
La CAN en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'occasion de voir ses bénéfices doublés. Une aubaine pour ses chauffeurs de taxi stationnés à l'aéroport.
Zungrana Francis, habituellement quand on vient ici, on a lié. Il n'y a pas de client, mais Audi là, en tout cas, on profile avec les clients seulement.
À quelques heures du coup d'envoi de l'événement, tout est prêt pour la CAN de l'hospitalité.
D'Abidjan à Korogo, l'organisation de la CAN se présente comme une opportunité pour faire la promotion de la culture Senoufo. À cet effet, la mairie et le conseil régional ont pris des dispositions pour mettre en valeur cette culture. Les contours et le contenu de ces dispositions avec Fidel Sarasoro, président du conseil régional du Poro.
Le conseil régional du Poro et la mairie ont mis tout en œuvre pour appuyer le comité local d'organisation de la CAN ici à Korogo. Et je peux vous assurer que nous sommes prêts pour accueillir nos invités. Les 4 équipes qui viendront ici, il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, du Mali et de la Namibie. Nous avons même pris des dispositions pour que même ceux qui ne parlent pas le français se sentent chez eux, tant la traduction en anglais sera disponible à tous les niveaux. Les restaurants ont mis le paquet, comme on dit, pour servir les meilleurs plats, c'est nous faut, à nos étrangers. Nous avons entrepris le ravalement de toutes les façades. Mais au-delà de cela, nous avons mis en exergue l'art Senoufo. Les artisans Senoufo ont été mis à l'honneur sur les grandes façades où l'art Senoufo, les symboles Senoufo sont mis en évidence. Il y aura un village Kan. Nous allons leur permettre de voir le Poro et Kourou en miniature à l'intérieur de ces villages-là. Nous allons expliquer le mode de fonctionnement de la société Senoufo. Nous voulons faire en sorte que Korogou soit une particularité, que nous puissions vendre notre culture, faire en sorte que ceux qui viennent repartent avec un pan de la tradition et de la culture Senoufo.
Fidèle Sarah Sero à l'instant au micro de Marcel Bonny. En vue de faire de la CAN 2023 une réussite, 20 000 jeunes filles et garçons ont été recrutés par l'Office du Service Civique National après un appel à candidature. Ces jeunes bénévoles proviennent des 5 villes hôtes de la compétition. Avant le déploiement sur le terrain, ils sont formés sur plusieurs thématiques dans leurs villes respectives depuis ce mardi 9 janvier 2024. Écoutons à ce propos Georgette Coissy, directrice du Civisme en charge de la formation des bénévoles CAN 2023.
Qu'est-ce que nous dispensons en fait comme formation? C'est d'abord sur les valeurs civiques et citoyennes. On veut parler de la responsabilité citoyenne du bénévole. Quel comportement citoyen je dois avoir? Aussi, on va parler aussi de l'éducation à la communication relativement aux fausses informations, les fake news, comment traverser, surtout les motocyclistes, les piétons, en fait tout le monde. Et donc pour nous, c'était important de pouvoir partager en fait la notion de sécurité avec nos bénévoles. Aussi, on a dit que cette canne-là devait être évidemment une canne de l'environnement. Et donc pour nous, l'accent aussi sera mis sur la notion de l'environnement. L'impact négatif des déchets plastiques sur l'environnement. La cinquième thématique sera sur la notion de violence du genre, promotion du genre. On a ajouté en fait la notion de tourisme pour qu'en fait on ait de bons guides qui puissent bien accueillir tous les étrangers, donner la bonne information à travers la courtoisie, la bonne humeur, le sourire, voilà. Ce sont des thématiques en fait qui sont partagées partout, dans toutes les villes CAN et tous les villages, en fait toutes les localités qui vont accueillir les villages CAN.
La directrice du Civisme en charge de la formation des bénévoles CAN 2023, Georgette Coissy, a été jointe par Ghislain Koulibaly. En marge de la CAN 2023, l'actualité à l'intérieur du pays, c'est le lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse le 6 janvier dernier à Boukébo, village situé dans la région du Bouéké. À cette occasion, le ministre des Eaux et Forêts a annoncé que les jours à venir seront très chauds avec des conséquences sur la pluviométrie. Laurent Tchagba, dans des propos recueillis par Joseph Assalé, notre correspondant dans le Bouéké.
Selon l'Organisation météorologique mondiale, il est établi qu'il sera très chaud en Côte d'Ivoire à cause du phénomène climatique El Niño qui s'est installé dans notre pays depuis avril 2023. Et cela pourrait durer jusqu'en avril 2024. La FEDEXAM avait d'ailleurs indiqué que les impacts de ce phénomène se signaleraient en Côte d'Ivoire en décembre 2023 et au cours de l'année 2024. Ainsi, l'on devrait s'attendre à une rareté de pluie, des sécheresses qui vont impacter la disponibilité de l'eau dans les barrages hydroélectriques et une augmentation de la température globale qui va accentuer le risque de feu de brousse. C'est pourquoi j'ai instruit mes services à l'effet de mettre en œuvre une base opérationnelle en vue d'accentuer la lutte avec des patrouilles de veille et de dissuasion des actes criminels. Chers parents, je sollicite l'engagement individuel et collectif de tous dans la lutte contre le feu de brousse pour la sécurité alimentaire et pour la restauration du couvert forestier ivoirien en le portant à 6 500 000 hectares à l'horizon 2030.
À l'instant, Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts. Dans le Lodjibois, le 6 janvier dernier, les professeurs du Collège Amitié ont été honorés par une quarantaine d'anciens élèves. Unis au sein d'une amicale des premières promotions d'élèves de cet unique établissement d'enseignement secondaire dans les années 90 à Iré, ces derniers ont également tenu à servir de modèle de réussite à suivre pour la jeune génération. Abel César Cassin.
Devenus aujourd'hui des acteurs de la vie publique, ces 40 anciens élèves, unis par une amicale qui ont fréquenté dans les années 90 l'unique collège de la localité, avant d'essaimer pour d'autres cieux, ils sont revenus les bras chargés de cadeaux pour leurs anciens professeurs. mais aussi des conseils pour les plus jeunes élèves. Suivant le cadre d'assurance, Tano Clément, membre du bureau de cette amicale.
Avec ce qui se passe aujourd'hui, on vous parle de Kadhafi et autres. La vie là, pendant que tu es à l'école, pardonnez, ça là, ça ne permet pas d'ouvrir l'esprit. Les filles, concentrez-vous sur vos études. Quand vous avez fini ça, quand vous gardez votre petite voiture, les garçons même là, vous venez vous saluer, ils hésitent. C'est ce qu'on veut. Les histoires de palabres à l'école, les professeurs, parce que le congé c'est le 25, non, nous le 20, on doit partir en congé. Non, pardonnez. Soyez l'exception des établissements de cette ville.
Le fonctionnaire international Sanogo Ismaël situe les ambitions de ses anciens.
On sait qu'est-ce que notre système scolaire est en train de devenir aujourd'hui. Et donc, en organisant cette cérémonie, nous avions aussi à tête de montrer des modèles à nos petits frères qui sont encore là et qui suivent nos pas. Parce que pour réussir, il faut toujours avoir un modèle. Mais n'ayant pas de modèle, ils peuvent naviguer à vue.
Justement, les 10 as de cet établissement, dont l'élève de 5e 2, Kanesama, qui fait figure de super-major, avec 19 de moyenne obtenue au premier trimestre, ont été récompensés. De Iré, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Au Nigeria, au moins 7 personnes ont été tuées par des mines terrestres sur une autoroute dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Cameroun, où des djihadistes sont actifs. 7 personnes ont trouvé la mort mardi matin lorsque leur camion a heurté une mine terrestre soupçonnée d'avoir été posée par les djihadistes dans le village de Kinaba, près de la ville de Gamboru, selon Shehu Mada, chef d'une milice locale combattant les terroristes. 2 autres passagers ont été blessés, a précisé Ousmane Hamza, un autre milicien anti-djihadiste qui a également donné un bilan total de 7 morts lors de cette explosion. Nous revenons en Côte d'Ivoire dans les studios de Radio de la Paix où nous attend la revue des titres des journaux ivoiriens de ce jour. C'est avec Francis Cassi. Bonjour Francis.
Bonjour Mel Emmanuel. Bonjour à tous. Pour plus de fluidité routière à Abidjan, des infrastructures réalisées dans ce sens livrées aujourd'hui. C'est par ce sujet que nous ouvrons notre revue des titres de vos quotidiens de ce mercredi. Quatrième pont, Y4, tunnel d'Abobo, tous ouverts aujourd'hui, annonce à ce propos Fraternité Matin, ce que corrobore le mandat 10 ans. Infrastructure routière, Mambé ouvre officiellement plusieurs voies aujourd'hui. Intéressons-nous maintenant à la projection de vos journaux sur la prochaine présidentielle, notamment avec cette interrogation suivie de commentaires de Le Nouveau Réveil. Élection présidentielle de 2025, Ouattara sera-t-il candidat en 2025? Branle-bas et fébrilité au RHDP. Des ballons d'essai lancés, ça et là. Pendant que le président du FPI, Afinguessan, à propos de cette présidentielle, dit sur notre voie, en 2025, nous allons participer pour gagner. Les grands partis politiques ivoiriens également au menu de notre examen des unes de vos journaux. Et concernant le RHDP, le patron indique... Frappé de sanctions disciplinaires suite aux élections locales et sénatoriales, les 338 sanctionnés au président Ouattara, nous implorons votre clémence. C'est ce que note aussi l'expression en écho. RHDP, après avoir été sanctionné, les candidats indépendants implorent la clémence de Ouattara. Fête de la Renaissance 2024, le PPACI prépare un grand coup. Nous apprend pour sa part le quotidien d'Abidjan au sujet du parti de Laurent Gbagbo. Ce que la voix originale précise au lecteur avec deuxième édition de la fête de la Renaissance, Agboville va vibrer aux couleurs du PPACI. Quand, au sujet du PDCI-RDA, apprenant que son président s'est séparé d'un groupe financier mondial, le Nouveau Réveil bat ainsi sa une. Président du comité d'audit et administrateur indépendant de Kering, voici les raisons de la démission de Tidiane Thiam. Ce sur quoi renchérit l'héritage notant. Conseil d'administration de Kering, Tidiane Thiam a rendu sa démission. Et puis, politique nationale, le PPACI réagit à l'appel de Simone Gbagbo. Picasse, on veut compter sur nous-mêmes. Sinon, lit-on ce mercredi sur l'Inter. Et de son côté, le sursaut, quant aux universités et grandes écoles en Côte d'Ivoire, de s'exclamer ainsi. Enseignement supérieur, incroyable mais vrai. 2000 enseignants des universités et instituts sans salaire. Et terminons notre revue des titres de vos tabloïds de ce 10 janvier par la CAN, qui doit se jouer du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Et cela par cette interrogation sibylline de le Rassemblement. À 48 heures de la CAN, le match d'ouverture menacé. Merci et bonne lecture de vos journaux.
C'est à l'instant la revue des titres de la presse ivoirienne présentée par Francis Cassi. Vous en aurez une autre dans le journal de 8 heures. C'est le moment de l'entretien avec l'invité de la rédaction. Reporters sans frontières, RSF a publié récemment la 21e édition du classement mondial de la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire, qui y occupait la 37e place, passe désormais à la 54e place. Interrogé par Aoussi Potin, le chef du bureau Afrique de l'Ouest de RSF, Sadibou Mraoun, intervient sur la raison de ce classement.
Monsieur Sadibou, bonjour.
Bonjour.
Reporters sans frontières vient de rendre public la 21e édition du classement mondial de la liberté de la presse. Et selon donc ce classement, la Côte d'Ivoire passe de la 37e à la 54e place. Qu'est-ce qui explique, nous allons dire, cette dégringolade de la Côte d'Ivoire?
D'une manière générale, la Côte d'Ivoire est quand même un pays qui est réputé de tradition de liberté de la presse. Et le classement qui a été publié montre effectivement une chute du pays de 17 places environ. Donc, c'est expliqué un peu par un certain nombre de facteurs plus ou moins liés souvent à la liberté de la presse, tels que les journalistes et les acteurs principaux des médias et de l'information d'une manière générale en jouissent, et tels que aussi le public le perçoit. C'est aussi un pays où on a vu, par exemple, quand même, malgré le fait qu'il y ait ce paysage médiatique toujours parmi, disons, les plus politisés de la sous-région et plus ou moins polarisé sur un certain nombre de sujets. C'est quand même un pays où on parle d'une presse du pouvoir, la presse de l'opposition. Et il y a malgré cela aussi le fait qu'il y a quand même des stations de radio, des chaînes de télévision, même si la RTI reste prédominante. Il y a des chaînes privées qui sont apparues ces dernières années. Ça, c'est quand même quelque chose à mettre à l'actif du pays. Mais on a vu aussi qu'il y a eu quelques petits soucis avec des journalistes d'investigation. Je pense comme ça au cas de Jean-Noël, qui avait été convoqué et puis placé en garde à vue, bon, finalement libéré. Ce sont des choses qui comptent dans le dispositif d'une manière générale. Sur le plan économique aussi, il nous semble qu'on voit en Côte d'Ivoire une baisse des ventes de journaux, par exemple.
Alors, Sadi Moumaroun, là, vous nous avez donné un aperçu de ce qu'il en était de la Côte d'Ivoire. De façon générale, quel est aujourd'hui l'état de la liberté de la presse et de l'accès à l'information en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest?
En Afrique de l'Ouest, il y a deux niveaux. Dans le premier niveau, il y a les pays qu'on peut considérer comme les pays dirigés par des autorités militaires, Mali, Burkina, Niger. C'est très problématique un peu dans ces pays-là. Aujourd'hui, au Mali, il y a presque plus de correspondants de la presse internationale. C'est le même cas au Burkina, c'est le même cas au Niger. Au Burkina, la situation se dégrade de jour en jour avec des décisions pratiquement liberticides prises par les autorités militaires qui ont expulsé les correspondants internationaux, qui ont suspendu des chaînes internationales en français comme RFI, France 24. Et tout cela constitue des problèmes et ils cherchent aussi à contrôler les régulateurs dans nos pays en Afrique de l'Ouest généralement. Et on a ce qu'on appelle les conseils supérieurs de la communication ou bien la haute autorité de la communication ou bien le conseil national de régulation. Au Burkina, il s'agit du conseil supérieur de la communication. Aujourd'hui, le président est nommé et choisi directement par le chef des autorités militaires. Mais c'est les mêmes tendances qu'on voit un peu au Niger. Quand on leur parle, ils vous disent qu'il n'y a pas de problème de liberté de la presse, alors qu'il y a les problèmes de sécurité des journalistes, les problèmes un peu de relations entre les médias et le public sont réels. C'est aussi le cas du Mali, où on vous parle de traitement patriotique de l'information, qui vous met dans une sorte de corset en tant que journaliste. Si on vous dit traitement patriotique de l'information, cela veut dire que vous ne pourrez pas peut-être parler en toute liberté. Il y a aussi le deuxième niveau qui est, disons, moyen dans des pays qui étaient jusque-là les fleurons de la liberté de la presse, comme le Sénégal, qui a vraiment chuté dans le classement des RSF en 2023 à la 104e place. Donc, d'une manière générale, c'est un peu comme ça, mais on voit des pays qui progressent vraiment, comme le Cap-Vert et la Gambie, qui est partie de très loin depuis jamais, mais qui, ces cinq dernières années quand même, a fait un progrès et qui fait de la Gambie presque le premier pays africain dans le classement mondial de la liberté de la presse à la 50e place.
Alors, Sadibou Maron, pour finir, comment est-ce que l'on peut aider aujourd'hui à améliorer les conditions de travail du journaliste en Afrique de l'Ouest pour que l'information puisse parvenir aux populations de façon précise et de façon aussi exacte?
Nous pensons fondamentalement que l'information est importante. La liberté de la presse est une sorte de pierre angulaire de la démocratie, comme on le dit souvent. Et en Afrique de l'Ouest, au-delà des cas du Mali, du Burkina et du Niger, il faut continuer à favoriser le fait que l'information doit être une denrée importante et que cette information-là doit être bénéfique, utile et digne d'intérêt pour les populations africaines. Elle doit pouvoir être transmise dans les langues officielles, mais aussi les langues nationales. Mais aussi, la protection des journalistes est importante. Leur protection nous semble cruciale et ça relève des autorités africaines qui, au titre des constitutions, ont la prérogative de protéger les citoyens, y compris donc les journalistes. On ne devrait pas aussi, dans nos pays, penser à faire des arrestations arbitraires de journalistes. Donc, il faut respecter la dépénalisation des délits de presse, promouvoir cela, et essayer de mettre les conditions nécessaires pour que les journalistes eux-mêmes puissent travailler sans crainte et sans risque de représailles au bénéfice des sociétés africaines, notamment dans nos pays.
Sadibou Maron, nous vous remercions.
C'est moi. Merci, bonne journée.
C'était Sadibou Maron, l'invité de la rédaction, interrogé par Aoussi Potin. Et sans transition, nous passons au rappel des titres de ce journal. Coupe d'Afrique des Nations J-3. Pour la circonstance, Christelle Yesso était aux abords de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Avec elle, vous avez eu l'ambiance qui y prévaut. Et puis, hors de nos frontières, au Nigeria, au moins 7 personnes tuées hier mardi par des mines terrestres dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Cameroun. Ce journal est terminé. Je vous retrouve à 8h pour une autre édition.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.